Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Après nos 11 meilleures nouveautés manga de 2025, après nos 10 coups de cœur perso de l'année passée, voici donc maintenant le top des rééditions et des classiques de ces 12 derniers mois. D'ailleurs, la plupart de ces mangas ont été proposés dans des belles éditions. C'est surtout aussi qu'à chaque fois, ce sont d'excellents mangas. Sinon, on ne réédite pas un manga qui est moyennasse ou qui a aucun succès ou aucune chance d'en avoir. Donc, on fait pas un top de la même manière que les autres. Et surtout, on commence à avoir des titres de plus en plus récents en réédition. Et même, on en parlera tout à l'heure, il y a des rééditions de titres qui sont toujours édités en version normale. Ça devient complètement fou. Mais on avait commencé l'année dernière à faire des petits glossaires, un petit lexique au début de cette émission. Est-ce que Robin, tu peux nous dire ce que ça veut dire BAT?
Ouais, bah oui, on fait des glossaires parce que c'est des éditions souvent qui sont assez originales dans leur fabrication et qui utilisent des techniques d'impression un peu spécifiques. Le BAT, c'est un terme pour le coup qui s'utilise pour toutes les éditions. Ça s'appelle, enfin c'est le l'acronyme pour bon à tirer. C'est en gros le go officiel donné par l'éditeur à l'imprimeur pour dire c'est bon, ce qu'on a vu est conforme à ce qu'on veut pour le livre. Tu peux le tirer. Traditionnellement, ça se faisait en allant chez l'imprimeur et l'imprimeur sortait des chromalins, donc des sorties un peu sur feuille pour contrôler. Alors moi, je parle beaucoup en bande dessinée, on contrôle surtout la couleur, en manga c'est moins le cas, mais on peut quand même contrôler le taux d'ancrage, le niveau de remplissage des gris et des noirs et tout.
Donc c'est à ce moment-là, chez l'imprimeur, tu sors chez l'imprimeur, ta plume, ton encre, voilà, et tu signais le bon à tirer.
Exactement, fais comme on met lu et approuvé, là tu mets bon à tirer, le machin, tu signes, et en gros c'est la validation officielle pour dire c'est bon, on y va. Et donc dans le manga, souvent un BAT c'est aussi ce qu'on demande à l'ayant droit en disant voilà, est-ce que vous nous donnez votre BAT par rapport aux éléments qu'on vous a fournis sur l'édition française de votre titre. Et s'ils disent que c'est ok, alors maintenant ça se fait beaucoup à distance en envoyant des PDF et tout, mais c'est vrai que traditionnellement ça se faisait en allant chez l'imprimeur.
Maintenant je vous propose un jeu, vous allez dans votre bibliothèque devant là où vous avez mis vos livres, ça peut être peu importe dans quelle pièce, vous allez devant vos livres, devant vos mangas.
Oui, les mangas.
Devant vos mangas. Globalement, si vous voulez bien lire le titre de tous vos mangas, vous allez pencher la tête vers la gauche.
Voilà. Chez nous, en France.
Mais il y a certains éditeurs, vous allez devoir pencher la tête vers la droite, comme les éditions Kana ou Ankama, par exemple.
Voilà.
D'où ça vient, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah alors d'où ça vient, on sait pas trop. Alors il doit y avoir tout un historique si on a des érudits de l'histoire de l'édition, mais en gros il y a un sens qu'on appelle sens de lecture du titre à la française, qui est le titre effectivement quand on penche la tête vers la gauche. Donc sur des livres qui s'impriment normalement,
pas comme des mangas,
pas comme les mangas qui s'impriment à l'envers parce que ils foutent le bordel, mais genre techniquement un sens de lecture d'un titre à la française, c'est quand vous posez votre livre sur une table, il faut pas que la couverture soit vers le ciel. Et à ce moment-là, et si le titre est lisible à l'endroit, c'est que c'est un sens de lecture à la française. Et si c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire la couverture est vers le haut, et que en gros le titre se lit du haut du dos vers le bas du dos, bah là c'est sens à l'américaine.
Mais sinon, tu penches la tête à droite,
voilà,
américaine, à gauche, à la française. Alors, quand vous avez des bibliothèques.
C'est ça qui est compliqué.
Et vous faites pas mal au coup,
c'est
franchement.
Ça qui est compliqué maintenant, c'est qu'effectivement, comme il y a des éditeurs qui ont chacun pris des habitudes, voilà, par aussi des fois pure coquetterie éditoriale, hein, c'est pas forcément un truc choisi. Et bah, ça fait que des fois dans votre bibliothèque, vous avez des titres qui sont dans un sens et dans l'autre.
Les classiques et les rééditions de 2025, c'est maintenant et c'est ici dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards!
Vous écoutez la cinquième de couve, l'émission où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les rééditions et les classiques du manga de 2025. Et on a été quand même bien servi cette année. C'est peu de le dire parce que on s'est arrêté à 10, mais on pouvait aller bien plus loin. Ouais, hein, salut Julie, salut Robin, comment ça va?
Salut Maxime.
Salut.
Alors cette année, on a eu des choses assez intéressantes. Et on commence par ce phénomène. Maintenant, on réédite dans des belles éditions des mangas qui ne sont pas terminés. Ça ne se faisait pas avant. Et c'est le cas notamment pour Berserk, le monument Berserk. Berserk sera toujours Berserk, donc, mais cette fois dans une édition qui n'a rien à voir avec l'édition classique normale du petit bouquin qu'on a dans sa bibliothèque depuis de longues années. On est sur un grand format cartonné. Alors, soit, hein, ça magnifie les dessins de Monsieur Miura. On est dans une traduction revue, enrichie, parce que ça date hein, maintenant, mine de rien, Berserk, avec une immersion donc, voilà, plus profonde dans l'univers. On est dans le Berserk épique. Il y a des pages couleurs inédites, il y a des extraits d'archives de l'éditeur japonais qui sont enfin accessibles aux lecteurs français. Et donc, c'est une publication sous forme de volume double, qui reprennent donc deux tomes de l'édition normale, mais dans un seul volume. Pour ce titre qui a vendu déjà plus de 3 millions d'exemplaires sur les 3 dernières années. Enfin, Berserk, c'est incroyable en France, quoi. On en parle chaque année, à chaque fois qu'on fait des top ventes. Berserk est toujours dans un des tops. Et donc, c'est le cas pour cette édition qui fait partie des meilleures ventes de réédition et des meilleurs lancements de réédition de cette année. Vous en avez profité, vous, pour relire le début de Berserk ?
Oui, un petit peu.
Pas du tout. J'avoue, non, mais j'ai trouvé que le travail était assez soigné. Il y a un jaspage, donc on fait une interro surprise pour les gens qui avaient peut-être écouté l'émission de l'année dernière. Qu'est-ce qu'un jaspage? Mais il y a un jaspage, couverture cartonnée, voilà, marquage à chaud, je crois. Enfin, je sais, j'ai pas tout le détail technique de l'édition, mais...
Il y a un côté vieille édition Jules Verne, tu vois.
Oui, bah, l'idée, c'était ça, c'était de se dire, on est sur un monument de la Dark Fantasy, faisons un truc grimoire, quoi, tu vois, genre vraiment, c'est ça s'y prête, quoi.
Mais alors, moi, j'ai 3 personnes dans mon entourage, là, ces 6 derniers mois, qui sont pas des grands lecteurs de manga, hein, qui m'ont dit avoir commencé Berserk avec l'arrivée de cette édition.
Bah écoute,
c'est donc soit cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire ou cadeau pour elle-même. Elle fait, bah voilà, j'ai toujours entendu parler de Berserk, de gens qui m'ont dit, ah, mais c'est bien, tu devrais le lire un jour. Nouvelle édition, bah ok, en plus, le livre il est beau, alors ok, j'achète.
Oui, ça fait très cadeau. Je trouve qu'il y a, ouais, y a un côté objet plus, ça en impose dans sa bibliothèque, il est très très... Enfin, il y a une sorte d'élégance, effectivement, le mot grimoire correspond tout à fait à
Necronomicon, l'image. Necronomicon, l'édition Necronomicon. Mais
en revanche, non, il y a un truc qui est très drôle, c'est que les trois, qui donc, je voulais dire, c'est pas des grands lecteurs de manga, ces trois personnes, donc à mon échelle, c'est pas non plus énorme, tu vois, c'est trois parmi d'autres, mais les trois m'ont demandé... Si, mais c'est bien terminé, on est d'accord, c'est fini.
Oups.
Bah, tu peux leur dire que oui, tu dis bon, c'est une nouvelle histoire.
Là, tu vas avoir un choc quand tu commences par une édition comme ça, je trouve.
Alors, l'avantage, c'est que ça donne une discussion d'une demi-heure.
Oui.
Alors, attends, je vais te raconter tout. Miura.
Les angles, les sagas, les arcs, les.
Son pote. Le studio, la totale. Non, mais bon, au moins ça fait discuter, ça fait de très belles conversations autour de Berserk. Et voilà, si en plus ça marche commercialement pour Glénat, tant mieux. Mais voilà.
Mais ouais, je pense que ça doit jouer sur ce côté. En fait, Berserk, ça fait vraiment aujourd'hui partie des œuvres cultes du manga, mais pas que, tu vois. C'est vraiment un monument du manga, mais c'est aussi un monument de la pop culture au sens large, tu vois. Je pense que si t'es quelqu'un qui apprécie les univers d'imaginaire, de fantasy et compagnie, Berserk, tu sais que c'est dans un coin de ta tête, quoi. Tu sais que c'est une œuvre, à un moment donné, tu vas y être confronté parce que ça a tellement infusé d'autres œuvres. Moi qui parle tout le temps des studios From Software, on sait très bien que les Dark Souls sont inspirés par Berserk en grande partie. Enfin, tu vois, c'est vraiment une œuvre qui a vraiment marqué son époque et qui continue d'ailleurs de la marquer. Et je pense que pour quelqu'un qui se dit... Ah, je sais pas quand m'y mettre et tout, faudrait quand même que je m'y mette et tout, bah c'est sûr que quand t'as une édition comme ça, par le biais d'un cadeau, par le biais de tu tombes dessus en librairie, tu dis ouais, quand même c'est vrai que ça a de la gueule et tout, bah oui, c'est forcément, ça va pousser, je pense, tout un nouveau lectorat qui connaissait peut-être de loin ou qui connaissait par l'image ce que c'est que Berserk et qui a envie de, bah voilà, se dire bah enfin j'y vais, quoi.
Ouais, après l'achat d'impulsion, il...
Ouais, voilà, faut avoir du pouvoir, d'achat. Après, moi, j'avoue que en vrai, moi, je suis à titre personnel, je suis hyper attaché à l'objet manga en tant que objet populaire. Je trouve ça génial que ce soit aussi beau dans une forme aussi cheap, et je trouve que presque les éditions collector, c'est un contresens. Mais bon, c'est un vaste débat.
Mais du en coup, tout cas, 25 euros pour un manga qui s'est retrouvé dans la panade quasiment tout de suite. Alors, au moins, ça a fait de la pub, hein. Mais il y a eu une polémique à la sortie.
Bah, ouais, parce que c'est quelque part, ça montre aussi un peu les attentes que le public peut avoir quand on parle d'une œuvre comme Berserk. Tu vois, il y a vraiment un truc, c'est non, mais c'est notre bébé, faut que vous le soyez, tu vois, faut pas que vous fassiez n'importe quoi avec. Parce qu'il y a effectivement une polémique sur, alors je sais plus si c'était sur quel volume, le 2, je crois. Il y avait un visuel qui avait été retouché par le graphiste qui avait, voilà, procédé à l'adaptation en français. Et en fait, c'est un visuel de titrail de chapitre qui à l'origine a un espèce de titre en japonais immense qui couvre genre le quart haut de l'image, ce qui fait qu'en fait ça couvrait l'épée que tenait Guts, et en fait on voyait pas vraiment ce qu'il y avait derrière le logo, et la personne qui a retraité l'image, alors il y a eu des polémiques sur est-ce qu'il a utilisé l'IA ou pas. En vrai, a priori non, mais je veux dire de manière très très marginale, ils ont pas demandé à une IA de retoucher le visuel, c'est ça que je veux dire. A cru que l'épée était dans un sens parce que le visuel était trop masqué par ce logo, et finalement il s'est trompé de sens de l'épée. Et donc c'est vrai que si après tu regardes le visuel, tu dis bah oui, mais là il y a un petit problème.
Il y a pas de garde.
Il y a une épée qui a pas de poignée, quoi. Donc,
c'est quoi le manche, comment on fait?
Et c'est vrai que le sens dans lequel il tient l'épée est pas logique en soi, donc on peut comprendre que la personne se soit trompée, mais c'est une erreur finalement assez grave. Surtout pour, encore une fois, une édition comme celle-là, qui est une édition vendue comme parfaite, ultime, d'une édition, d'une œuvre culte et tout. Et vraiment, ça, ouais, je trouve que ça appuie ce côté culte de l'œuvre, quoi. C'est vraiment, faites vraiment attention quand vous touchez à ça, quoi. C'est...
Berserk est donc disponible pour les tomes 1, 2 et 3 partout en librairie. Deuxième réédition sur laquelle on voulait mettre un coup de projecteur, c'est celle de Sorcière de Daisuke Igarashi. Daisuke Igarashi qui est de nouveau de plus en plus disponible en France. Sorcière, c'est un manga qui avait été publié au Japon en 2003 et qui compile 6 histoires dans lesquelles l'auteur, l'artiste, revisite la figure de la sorcière. Ça avait été proposé à l'époque chez Casterman en 2006. Il y a 20 ans maintenant, hein, en France, avant de devenir totalement introuvable. Et donc voilà, maintenant il est de retour en librairie dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Et donc Sorcière, c'est, Julie, ce qu'on peut appeler un grand manga.
Oui, et moi je pense que c'est vraiment un classique. Ça devrait être un classique qui devrait être dans toutes les bibliothèques. Et si vous êtes amateur de manga, bah, il faut vraiment que vous ayez au moins un titre de Daisuke Igarashi. Et Sorcière, c'est un diptyque. Il est magnifique, il faut le garder. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir, au bout de 20 ans, retrouvé ce deuxième tome. Pour la petite histoire, donc, j'avais le tome 1. Je n'avais pas acheté le tome 2 à l'époque, où je ne l'avais pas gardé. Et pendant toutes ces années, je m'étais dit, il faut que je le retrouve, il faut les réunir. Et cette année, mon vœu a été exaucé, puisque j'ai désormais ce que j'appelle mes sœurs Frankenstein, l'ancienne édition de chez Sakka, à côté de sa petite sœur toute belle, toute pimpante de chez Delcourt. Et franchement...
Mais t'as acheté le 2 de la nouvelle?
Oui, pour avoir ça, elles sont réunies, ça y est, c'est bon.
C'est ton 3 Adolphe à toi.
Ouais.
Moi, il me manquait le dernier à chaque fois.
Exact. Et on peut faire des bricolages et ça devient comme ça. C'est comme ça, je trouve, qu'on personnalise aussi une collection. Et pour revenir en tout cas au titre, Sorcière, c'est beau, c'est mystérieux, c'est mystique, c'est dérangeant. Enfin, je veux dire, oui, il y a beaucoup de titres de Igarashi qu'on pourrait qualifier avec tous ces termes. Mais en fait, voir le monde tel qu'il est proposé dans Sorcière, c'est vraiment une espèce de consolation. Enfin, surtout à l'heure où l'écologie, où on est cerné aussi par des questions de guerre ou de choses qui touchent au vivant, en fait, qui est vraiment ce qu'il défend souvent dans ses mangas. Moi, je trouve que même avoir possédé ces deux titres-là, c'est vraiment, comme dans son manga, avoir un talisman, quelque chose qui vous protège de certaines choses, de certaines pensées négatives, destructrices. Donc franchement, gardez-les près de votre cœur.
Et pourtant, c'est marrant, il n'y a pas eu un effet réédition de Daisuke Igarashi, un effet sorcière, je sais pas, un effet Tezuka, un effet vagabond où tout de suite ça s'est emballé. Alors pourquoi il n'y a pas eu un tel effet sur un titre alors qu'il y a des titres parfois un tout petit peu moins connus qui ont un plus gros effet? Est-ce qu'il y a un problème de prescription? Est-ce que nous, par exemple, on n'en a pas assez parlé comme d'autres, hein? Est-ce que l'œuvre n'est pas suffisamment accessible encore? Est-ce que le fait que le manga coûte 16€ le tome et que ça fasse 32€ les deux, ça soit un frein? Comment vous le voyez?
Bah, moi, je trouve pas ça. 16€, c'est pas... Non, moi, je pense que j'ai une take, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de la politique éditoriale autour de Igarashi? Est-ce que c'est pas un auteur qui est un peu trop éparpillé?
Totalement
chez plein
éparpillé.
D'éditeurs, et du coup, c'est ça, oui. Le problème, c'est qu'en fait, bah, tu sais plus trop si tu veux la bonne édition, chez qui il faut aller. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de politique d'auteur faite sur cet auteur-là parce qu'il est trop partout, quoi.
Bah, tout le monde voulait son Daisuke Igarashi à un moment donné, ouais.
Oui.
On en a même un chez Nueve Graphics, par exemple. C'est,
bah, moi, typiquement, tu vois, ouais. Je sais que c'est un auteur, tu vois, comme dit Julie, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Mais comme je ne connais pas très bien, bah, je ne sais pas lequel il faut, quoi. Et donc là, bah, ça a l'air d'être celui-là, a priori, donc je vais le prendre. Mais tu vois, putain, je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui, même s'ils s'y intéressent, ils se disent « Ah ouais, mais ok, mais alors, quelle édition il faut que je prenne, chez qui, et machin et tout. » Donc c'est pas évident. Quoi.
Après, moi, je pense aussi, effectivement, que c'est un point important de savoir comment on présente ces œuvres, surtout quand elles ont eu un espèce de blanc, de voilà, 20 ans sans être vraiment mise en avant ou être complètement occultée. Il aurait pu être dans mes mangas oubliés très facilement, mais je pense aussi que c'est l'auteur, comment dire, sa personnalité d'auteur, en fait. Il a des récits qui sont puissants, mais qui sont toujours un peu mystiques, qui sont toujours un peu évanescents. Et donc, peut-être qu'il y a aussi toute une communauté de lecteurs qu'il faut encore construire,
peut-être,
encore convaincre.
Mais je pensais qu'avec l'animé Les Enfants de la Mer, ça avait suffisamment popularisé le travail d'Igarashi pour qu'il devienne un petit peu plus populaire qu'il ne l'est en France, mais pas suffisamment, a priori.
Bah, moi, après, je trouve que c'est un auteur qui est aussi... Enfin, il est éparpillé parce qu'il est très libre, très indépendant. Et ça reflète aussi ses choix à lui, artistiques. Donc c'est difficile parfois, hein, de coller parce que même si on veut bien faire.
Bah, tu vois, je m'en parallèle à un Kaneko qui a un peu le même problème et qui a les deux mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il est un peu trop partout. Bon, maintenant, il commence à être un peu resserré sur... Non, même pas, en fait. Mais tu vois, c'est pareil, il n'a pas le succès qu'il mérite, quoi, quelque part, alors que c'est... Et c'est en même temps deux auteurs très libres, quoi.
Bien sûr. Y a Petite Forêt, Les Enfants de la Mer, et donc Sorcière, qui est ressorti l'année dernière de Daisuke Igarashi aux éditions Delcourt Tonkam. Après Sorcière, maintenant, L'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers.
Oh, la transition.
Seconde
c'est
série en cours qui a droit à une réédition avec une couverture cartonnée, des définitions assez luxueuses, une dorure à chaud. Un tranche-fil, Robin. Qu'est-ce qu'un tranche-fil?
Alors, un tranche-fil, c'est une petite couture, c'est un ornement. Une petite couture qui se met entre le dos et le bloc intérieur, une petite couture de couleur en général, qui vient ornementer voilà, c'est cet espace qu'il y a entre là où le bloc intérieur est collé sur le dos.
Ça rappelle un peu les vieux grimoires.
Voilà, souvent c'est associé à ce qu'on appelle un signet, qui est une espèce de languette qui, en tissu et qui est attachée à ce tranche-fil et qui sert de marque-page, quoi.
Bon, après, c'est le nom de la nouvelle édition de l'Atelier des Sorciers, hein, c'est l'édition grimoire, avec des pages couleurs aussi, des petits contenus exclusifs, des recherches, des interviews. Voilà, seconde série en cours qui a droit à une réédition.
Tout à fait, et un bel écrin pour le chef-d'œuvre de la décennie, quoi, tout simplement. Non, mais vraiment, L'Atelier des Sorciers, on le dit et on le redit dans cette émission, que c'est vraiment un des mangas, enfin, en tout cas, pour moi, c'est un des mangas les plus incroyables de ces dernières décennies, puisqu'il s'est sorti fin année 2010.
Ouais, mais je vous renvoie du coup à une émission qu'on a fait il y a 7 ou 8 mois à peu près.
Tout à fait.
Complètement dédié à l'Atelier des Sorciers.
Avec Pauline Croquet. Et je trouve que c'est une manière, bon, un peu chère, certes, encore une fois, comme pour Berserk, de découvrir la série pour un public qui peut aussi pas forcément être mangaphile, tu vois, qui va en avoir entendu parler par les qualités graphiques et l'aura que le titre peut avoir. Moi, je pense que c'est un titre qui est totalement accessible à aussi un lectorat qui n'est pas complètement versé dans le manga. Alors après, voilà, il y a l'étape de lire dans l'autre sens et tout. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément habitués à ça. Mais je pense que c'est aussi, par le biais d'un cadeau ou autre, une manière de découvrir cette œuvre. Et puis, je dis onéreux, mais en fait... pas tant que ça, parce que c'est un double volume, c'est 20 balles, je crois, ça fait 10 balles le tome. Ouais, c'est un peu plus cher que l'édition de base, mais c'est pas non plus... Enfin, ça va, tu vois, c'est pas non plus...
Bah, quand t'es collectionneur, non, mais quand t'es kid d'âme, entre guillemets...
Ouais, mais tu vois, genre...
Tu ne veux pas investir vraiment beaucoup.
Franchement, je prends un lecteur de BD, il paye plus cher ce qu'il lit, donc oui. Au final, ça vaut le coup, quoi, pour avoir... Bon, alors après, certes, c'est une série qui est en cours et tout, donc on sait pas pour combien de volumes vous vous engagez, mais voilà, et comme t'as dit, c'est tellement rare aussi d'avoir une nouvelle édition d'une série en cours. Moi, je trouve que c'est ça mérite, et je trouve
en plus avant on l'avait, mais avec des trucs genre les éditions Hachette.
Oui, ouais, bien sûr, bah, l'inverse en fait, c'est à dire des éditions pas chères imprimées sur du papier de merde, ouais. et le numéro 1 à 1 euro chez votre marchand de journaux et tout, mais donc c'est cool aussi d'avoir en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est que, et encore une fois, je me contredis parce que je l'ai dit tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai pour l'Atelier des Sorciers, je pense que jamais je n'achèterai cette édition, parce qu'en fait ça me plaît très bien de le lire dans l'édition de base qui marche très bien aussi. Mais je trouve ça cool que cette offre existe pour des gens qui apprécient ça, ce type d'objet. Et en plus, c'est un objet qui correspond tellement à l'autrice, tu vois, qui a l'air d'être tellement bibliophile elle-même et dans ce délire de, voilà, tellement chiadé la direction artistique de ses ouvrages et tout, je sais pas, il y a un truc très cohérent aussi, quoi. Donc ça ne m'étonne pas finalement que cette édition existe.
En bonus, si vous aimez l'Atelier des Sorciers en édition grimoire, sachez qu'il y a la sortie de Divine en ce mois de janvier, l'œuvre précédente de Kamome Shirahama, qui est dans le même format en deux tomes avec des bonus, une histoire courte en plus, pour vous faire le pitch rapide de Divine. On a Enyal, l'ange, et Deviela, la démon, qui... quand elles ne sont pas occupées à se bastonner, s'unissent pour bouger et faire des choses sur Terre, comme retrouver la mère d'un bébé abandonné, arpenter Paris en quête de dernière tendance, échapper à un exorciste fou furieux. Bref, quand elles font des choses sur Terre, elles ont fort à faire, et surtout, c'est le bordel quand elles le font. Donc le monde des mortels va être... sacrément secoué, diablement secoué par ces deux, cet ange et cette démon. Ça s'appelle Divine. Voilà, si vous êtes fan de l'Atelier des Sorciers, que vous êtes passé à côté, ça peut être aussi le bon plan pour compléter votre collection. Maintenant, parlons d'un manga bien plus vieux. Oh là là. Il s'agit de Jun. Jun, c'est le chef-d'œuvre d'Ishinomori. Ça a mis du temps à sortir en France, hein. L'annonce, elle date de fin 2022. Mais ça y est, c'est enfin là, depuis la fin de l'année dernière. Jun, c'est l'une des œuvres de référence du monde du manga au Japon. Donc signé Ishinomori. Ishinomori, c'est le roi du manga. Vous connaissez Tezuka, le dieu du manga. Il y a le roi du manga, c'est Ishinomori. On lui doit Cyborg 009, Kamen Rider. Il a été assistant de Tezuka. Ça a été publié au Japon en 1967. Donc c'est pas du tout une de ses dernières œuvres. Hein. Il est décédé en 1998, Ishinomori. Et c'est une version intégrale qui est proposée par les éditions IMHO. Le récit, lui, il est assez surréaliste ou onirique, dans lequel un jeune aspirant mangaka doit faire face à son quotidien, à ses angoisses, à sa famille. Les pages sont très très souvent muettes, majoritairement muettes. Et surtout, la narration est totalement déstructurée. Julie, ça va dans tous les sens.
Oui, et puis moi, c'était vraiment une découverte parce que je connaissais bien évidemment certaines œuvres de Ishinomori, mais moi, ce que j'ai apprécié dans ce tome de Jun, c'est vraiment de voir à quel point le manga est élastique. C'est un médium de l'élasticité, il se permet beaucoup de choses. Il peut nous paraître pas si innovant, parce que, comme tu l'as dit, il date de 1967, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment très novateur, et comme tu l'as dit, c'est une plongée, vraiment une mise en image de toutes ces angoisses, de ces questionnements par rapport à la création, par rapport à ce qui est ou pas exprimable, si je peux me permettre. Et il y a toute une réflexion sur ce qui est artistique, ce qui ne l'est pas. Est-ce que la souffrance va permettre de créer des choses nouvelles? Qu'est-ce qui va apporter une vision à un auteur ou une autrice? Et moi, ce que j'ai trouvé très apaisant aussi, c'est comme tu disais, c'est très muet. Mais malgré tout ça, Et ben en fait, c'est un manga qui est terriblement bavard. Il y a énormément de choses à en tirer, énormément de choses à analyser. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une œuvre de jeunesse. Vraiment, il l'a fait quand il était encore jeune, encore sur plein de... Tu sens qu'il y a des appréhensions, qu'il ne sait pas trop où il va, mais il essaye.
Et les mêmes questions de la famille, du père. Est-ce, oui, est-ce que ton père accepte que tu deviennes mangaka ? Non, dans le jaune.
Oui. Oui, et puis lui-même, je pense, il se retrouve aussi confronté à ses envies de paternité ou de... Voilà, il y a ce genre de remise en question. Et c'est vraiment très étonnant. Et à la fois, on se dit, c'est vrai que c'est la puissance du manga. Tu peux vraiment t'en servir pour explorer de façon vraiment très libre. Tout ce que tu peux exprimer avec du dessin.
Mais je pense qu'il y a un truc lié aussi à la bande dessinée au sens large. La bande dessinée muette, c'est quand même un peu aussi dans les origines de la BD américaine, il y avait ça. Et je pense qu'il y a un peu ce truc aussi, tu vois, de pas que du manga, mais tu sais, de juste la narration par l'image, revenir à l'essentiel de ça, quoi. Faire une BD muette, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est un exercice de style qu'il a dû s'appliquer pour lui.
Mais
aussi,
c'est,
pour ça, hein.
C'est une expérience de lecture, June. C'est, j'insiste sur le terme d'expérience. Tu ne lis pas ça en disant tiens, je vais lire un truc vite fait. Non, c'est une expérience. Tu te prépares, tu t'installes, tu te mets bien. C'est une expérience de lecture. Ça a été aussi marquant pour énormément de mangaka au Japon, parce que graphiquement, pour l'époque, c'est très très classique, June, mais narrativement parlant, il y avait un temps d'avance pour un bouquin sorti en 1967 qui a inspiré tous les auteurs qui sont arrivés dans les années 80 après, ou 70 et 80, 80 derrière, même 90 pour certains. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et quand on y pense, on imagine que Ishinomori, c'est un auteur qui a réussi à passer de June, donc une expérience narrative quasiment muette, à Sankukai.
Oui, ou Kamen Rider.
Ou Kamen Rider, non mais Sankukai, c'est lui qui a créé Sankukai. J'ai choisi Sankukai parce qu'il y a un côté alors très kitsch dans Sankukai. Effectivement, oui, c'est l'auteur fondateur du tokusatsu, mais... June Sankukai. J'adore le pont, quoi.
Après, l'émission de la semaine précédente, on parlait de certains titres qui te faisaient penser à des journaux intimes. Et moi, je l'ai lu comme ça. Vraiment, June, c'est pour moi une sorte de journal intime d'un jeune auteur qui s'appelait Ishinomori et qui cherchait sa voix, faisait des tests. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans ces pages, des fois, il se dessine à travers des personnages habillés à l'occidental, qui marchent dans des rues pavées. Et puis, hop, tu tournes la page et t'as des samouraïs, t'as des choses beaucoup plus inspirées du Gekiga, enfin, qui sont, en tout cas, du Gekiga historique, quoi, on va dire. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, parce que, voilà, il cherche, il essaye, il se demande si, voilà, quel est son meilleur profil occidental. L'oriental, enfin, il essaye et parfois ce qui est difficile, c'est que ce combat est un peu douloureux, quoi.
Maintenant, il faut que Cyborg 009 et Le Voyage de Ryu soient de nouveau édités.
Oh, oui.
Le Voyage de Ryu dans mon top 10 perso. Et en vrai, c'est dommage parce que les éditions de Glénat à l'époque, dans leur collection Vintage, j'ai trouvé assez cool. Moi, j'aimais bien ce côté format assez compact, populaire.
C'était une proposition.
Je pense que c'était peut-être trop tôt à l'époque. Il n'y avait pas assez de rééditions, tu vois, de classiques. Maintenant, c'est peut-être plus l'heure à ça, mais ouais, ce serait trop bien. En vrai.
Maintenant, parlons des meilleurs lancements, rééditions et licences. Et on en a parlé la semaine dernière, le numéro 1 de ce classement rééditions et licences. Donc en gros, globalement, c'est tout ce qui concerne les lancements, les tomes 1 qui sont parus en 2025, qui ne sont pas des séries originales.
Des strictes nouveautés.
Voilà, c'est pas des strictes nouveautés. C'est des choses, genre, on connaît un peu. Genre, le nom, ça te dit un truc, donc ouais. Tu peux l'acheter... pas pour la série, mais parce que tu connais le nom. Et le numéro 1, c'est le cas, c'est pas forcément pour le manga, même si il est jugé très, très, très bien par certains, mais on l'achète surtout pour son nom, qui est Minecraft. Tu mets Minecraft sur un truc, tu le vends.
C'est
Minecraft
le jeu,
sur un manga,
c'est
tu
le
vends.
Jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, donc forcément...
Exactement. Numéro 2, c'est Berserk. Et Berserk, là aussi, on connaît. Mais bon, quel résultat pour cette réédition. Numéro 3, L'Atelier des Sorciers, l'édition Grimoire. C'était au début de notre émission.
Ça fait plaisir.
Kaiju numéro 8, Side B. avant la fin du manga, le spin-off c'est très bien vendu également. Chi, une vie de chat en France.
Oh, hey, le Chi, retour de Chi.
Chi qui est venu, qui est revenu faire coucou là.
Exactement, sous la tour Eiffel. Miaou, miaou.
Parce que je pense que les gens avaient oublié à quel point Chi c'était un carton quand même. Quand
c'était un carton
France,
monumental. C'est énorme. On oublie des trucs comme ça. On oublie que Yu-Gi-Oh! Était numéro 1 des ventes de mangas en France. Hein. Devant Naruto. On l'oublie. Sixième, justement, Naruto, le spin-off Konoha Shinden, The Steam Ninja Scrolls. Septième, c'est la réédition du tome 1 de Spy Family. Mm. Ouais. Bah oui, parce que du coup...
C'était quoi l'édition anniversaire
de Kurokawa, mais édition anniversaire de Pika pour Fairy Tail. Et Chainsaw Man a une réédition aussi du volume 1 qui se posait là.
La réédition Kaze ex-Crunchyroll.
Ouais, c'est ça.
Attention, ça va devenir collector.
Non, mais on en parlera tout à l'heure. Mais dixième aussi, c'est l'édition, la Chaos édition de Doro et Doro, qui s'est très bien vendue. Alors, je sais pas ce qu'ils en attendaient, mais en tout cas, pour moi, ce que j'imaginais, c'est super bien vendu.
Bah oui, en plus, édition assez chère, avec une fab chiadée et tout.
Ouais, carrément, carrément, carrément. Changement d'univers maintenant avec le cinquième de ce top classique et réédition de 2025 avec un manga qui est une inspiration pour de nombreux mangakas. Ça s'appelle Le Poème du Vent dans les Arbres, puisqu'après avoir publié Destination Terra, les éditions Naban ont proposé un autre manga culte au Japon de Keiko Takemiya, Le Poème du Vent dans les Arbres. C'est une édition qui fera 10 volumes au total, qui a été publiée de 1976 à 1984 au Japon. Le poème du vent dans les arbres, c'est une fresque dramatique qui se déroule à la fin du 19e siècle où deux jeunes personnes, Serge et Gilbert, sont confrontés à une société discriminante et à des individus totalement affreux.
Ouais.
Donc Serge et Gilbert, quoi.
Serge et Gilbert, ouais.
Ah oui, mais ça se passe
en langue originale. Hein.
Ça se passe à Arles. Même l'histoire commence dans un pensionnat de garçons qui est situé donc, dans le sud de la France, à côté de Arles. Et c'est la romance, mais en mode hard. Vraiment, tu commences sur les chapeaux de roue. Alors moi, j'en avais connu seulement des extraits qui étaient un peu éparpillés comme ça dans ma mémoire. Et le fait de pouvoir tout rassembler enfin et d'avoir retrouvé la cohérence narrative et chronologique de l'histoire me réjouit beaucoup. Alors, on a effectivement tout ce background de faire, rêver les jeunes filles japonaises de l'époque avec des décors occidentaux, historiques, des beaux costumes. Enfin, en fait, Takemiya a été invitée au livre Bruxelles. C'était en printemps dernier, je crois, enfin en 2025. Et en fait, elle n'avait pas pu se déplacer, effectivement. Mais elle avait fait une interview par visioconférence, on va dire. Et c'était très intéressant de voir aussi qu'elle avait un regard sur comment son œuvre était à nouveau étudiée ou acceptée en France, en tout cas en langue francophone, excusez-moi. Et par exemple, à l'époque, si on voulait avoir des personnages dynamiques qui faisaient des choses répréhensibles, ça ne pouvait pas être des personnages féminins. Il fallait que ça soit des garçons. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Gilbert, il se comporte vraiment pas très bien.
Pas le pire. Auguste...
Auguste, c'est celui qui a l'emprise sur son neveu et qui, disons-le clairement, ça quand même parle d'inceste, ça parle d'emprise sexuelle. C'est des thèmes qui sont malheureusement très à la mode et encore une fois, désormais, nous avons cette démocratisation de ces mots pour pouvoir en parler, chose qui n'était pas possible à l'époque.
Exactement, et de racisme aussi, puisque Serge est métisse.
Oui, exactement. Serge, j'ai oublié son nom. Mais c'est Battancourt, un truc comme ça. Mais il est le fruit, en plus, d'amour illégitime. En gros, son père est aristocrate.
C'est un bâtard.
Sa mère, elle est tzigane. Enfin, oulala, l'opprobre. Et donc, tous les deux, ils ont, on va dire, c'est au-delà des casseroles, hein, c'est des chaudrons. fesses qui vont devoir se trimballer et à travers tout ça il faut qu'ils se découvrent leurs sentiments, découvrent leur attirance l'un envers l'autre et la tendresse dans tout ça, bordel, j'ai envie de dire.
Et alors Robin, à ton avis, y a-t-il un lien entre le poème du vent dans les arbres et Berserk dont on parlait en début d'émission?
je fais appel à un ami.
C'est moi peut-être. Oui.
Oui, évidemment, puisque Gilbert a inspiré Miura pour Griffith.
Ah ok, d'accord.
Il a inspiré Ikeda pour Lady Oscar.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, Gilbert, c'est Bjørn Andresen. Bjørn Andresen, un comédien qui est décédé en fin d'année dernière, qui était le personnage principal du film Mort à Venise.
Ok.
C'est Tadio. Oh là là. En fait, c'est incroyable comme cette œuvre, enfin ce film en tout cas, a imprégné la rétine de toutes ces jeunes mangakas.
Et attends, Mort à Venise, il y a Alain Delon ou je dis de la merde? Non, c'est peut-être pas ce film-là, pardon. J'ai peut-être dit de la merde parce que je sais qu'Alain Delon a aussi beaucoup fasciné les auteurs et les autrices japonaises de cette époque-là. Mais en tout cas, voilà quoi, en gros, créatrice de l'androgyne fils de pute, quoi. C'est l'archétype de l'androgyne.
C'est vrai, en fait, oui, c'était la question de. L'androgynie, de pas être quelqu'un de fiable parce que tu portes à la fois, on va dire, les stigmates féminins et une certaine masculinité du fait d'être un jeune garçon. Mais c'est vraiment incroyable parce que, encore une fois, Takemiya, elle revenait aussi sur le choc qu'avaient provoqué ses propositions. Parce que, bon, très clairement, le poème du vent dans les arbres s'ouvre sur une scène de sexe, chose qui. Bon, c'est vraiment, ça a dû secouer
Berserk,
dans les manches.
Comme Berserk, mais c'est pas avec Griffith. Mais...
Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle disait, oui, à l'époque, personne n'avait vraiment encouragé la jeune mangaka qu'elle était, mais elle s'était vraiment obstinée à faire l'histoire qu'elle avait envie d'écrire. Et quand elle voit maintenant la féminisation des métiers du manga, de voir que là où elle a rencontré que des vieux éditeurs qui n'étaient pas d'accord avec sa vision des choses, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un de sa génération qui était un jeune éditeur qui commençait et qui lui a donné carte blanche, elle s'est dit waouh, on en a parcouru du chemin.
Et donc juste pour faire le point, il n'y a pas du tout Alain Delon.
Non, je confonds avec Le Guépard, je pense.
C'est possible parce que Mort à Venise, c'est donc un film qui est sorti en 71 de Luchino Visconti.
Oui, mais Visconti, c'est Le Guépard, c'est pour ça que j'ai confondu. Exactement. Alain Delon dans Le Guépard.
En revanche, pour le poème du vent dans les arbres, tu l'as abordé, mais je ne sais pas si on l'a assez précisé. C'est une œuvre qui peut vraiment, 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 vraiment mettre mal à l'aise.
Oui, parce que c'est violent, parce que c'est... on disait, il y a des thématiques très difficiles de sévices, de sévices physiques, mais aussi de sévices psychologiques. Et il y a aussi tout un discours finalement aussi sur qu'est-ce qui était les pressions qu'on mettait sur les jeunes filles à l'époque, qui ne pouvaient pas forcément s'exprimer avec leur propre voix, on va dire. Et c'est marrant aussi de voir que y a des choses qui ont quand même malgré tout changé. Et on peut être aussi choqué par la façon dont certains stéréotypes ont été créés parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens à l'époque ou parce que c'était le début et il y avait toute une recherche d'une nouvelle narration. Et donc, on sait qu'après, y a eu le Boys Love qui a été créé à partir de cette œuvre-là et qui a eu énormément de retentissement, notamment chez les jeunes mangaka plutôt féminines, on ne va pas se mentir. Moi, je trouve que c'est fou de se dire, il y a des œuvres qui sont fondatrices, qui ouvrent la voie et qui ouvrent à des courants entiers.
Complètement, et qui, je le disais, peuvent mettre mal à l'aise, mais qui peuvent être, à l'inverse, être extrêmement exutoires.
Oh,
c'est possible aussi, ça dépend comment on le vit, mais oui, voilà. Oui, mais...
Je pense qu'il y a quand même une charge cathartique qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut garder en tête. Et malgré tout, on a beau dire les années 70, les années de libération ou même de libération sexuelle, il y a des choses qui sont, qui sont la réalité, et puis il y a les mots dont on habille la réalité, quoi.
Le poème du vent dans les arbres, donc, aux éditions Naban. Le tome 10 était sorti au Japon en 1984, 2, 3, 4 ans après. il y a eu la naissance d'un groupe d'autrices qui s'appelle Clamp. Et en France arrive une nouvelle collection, la Clamp Premium réédition, dans laquelle on trouve notamment Crossholic. Clamp est donc de retour, presque comme chaque année, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'éditions de Clamp, j'arrive même plus à les compter. Certaines sont indisponibles, d'autres oui, d'autres non, d'autres seulement certains tomes. Bref, Clamp, c'est un collectif d'autrices donc, qui a été créé à la fin des années 80, qui se sont essayé à quasi toutes les catégories et quasiment tous les genres du manga. C'est donc plus d'une trentaine de séries différentes. Certaines sont très courtes, d'autres plus longues, comme Cardcaptor Sakura. Oui, on parle des autrices de Cardcaptor Sakura, de Tsubasa Reservoir Chronicle ou donc de Crossholic. D'ailleurs, c'est un peu dommage en ce moment de pouvoir relire Crossholic sans pouvoir relire forcément Tsubasa Reservoir Chronicle pour ceux qui possèdent pas l'œuvre, parce que les
ça va venir.
Bah ouais, espérons que ça vienne, mais c'est pas prévu pour l'instant quoi.
Moi j'ai envie de te dire, la vie c'est éternel recommencement, comme tu dis, on les voit qui sont là, qui reviennent tout le temps, et c'est tellement Clamp en fait, puisque donc moi j'appelle ça le paradoxe de Clamp. Comment faire des histoires à visée universelle avec des thématiques qui vont vraiment essayer de parler au plus grand nombre, tout en ne gardant volontairement que certains éléments. Et vraiment, il y a des personnages, il y a des décors, il y a des thématiques, beaucoup de spiritualité qui vont en fait créer une espèce de bulle dans laquelle elles vont créer leurs univers. Et donc, ces petites bulles peuvent avoir des annexes, se coaguler les unes aux autres. Mais il y a toujours cette impression quand même d'être en vase clos. Alors qu'elles sont hyper créatives, comme tu l'as dit, elles ont traité de tous les genres et elles ne sont pas arrêtées qu'au manga.
Oui, mais elles ont décidé de faire leur monde à elles.
Oui. Enfin, je pense que c'est vraiment une vision comme ça de créer une espèce d'univers qui était pluridimensionnel déjà à l'époque, puisque les personnages sautent d'époque en époque, peuvent être sur différentes timelines, se croiser ou pas. Il y a vraiment cette envie de dévorer le monde et de créer vraiment sans limite des choses. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de lieu, on y va. Et comme je disais, ce qui est très réjouissant, c'est que Clamp aussi, c'était vraiment les premiers, enfin pour moi ça reste un des premiers groupes d'auteurs, d'autrices qui a accepté d'aller à Japan Expo et qui a vraiment participé à une espèce d'élan,
mondialisation,
d'ouverture à de la pop culture dans le sens le plus global quoi.
À noter que si vous êtes fan de Crossholic, la suite a repris au Japon.
Wow, incroyable.
Incroyable. C'était en fin d'année dernière, Crossholic Ray, qui était en pause depuis 2017.
Ouais.
2017, 2025, 8 ans de pause. Ça va, Robin?
Moi, j'avais pas fait attention, mais...
sachez qu'en tout cas, la collection qui sort chez Pika, Clamp Universe...
Ah oui, t'as dit c'est chez Pika, je me demandais chez Kali.
Tout à fait. Ouais. Elle est vouée à terme à rassembler vraiment toutes les séries emblématiques du studio qui ont été publiées au Japon, tout éditeur confondu, pour offrir un beau rendu aux fans en harmonisant tout le design graphique de toutes les œuvres de Clamp.
Et ça, tu vois, c'est très cool. Parce que moi, ça fait partie d'un manque à ma culture. Tu vois, Clamp, je connais, pareil, l'aura, je sais, ce qu'elle représente pour le paysage manga, mais je sais pas par quel bout prendre le truc. Et le fait d'avoir un éditeur qui réunit tout, ça me fait plaisir.
Et sachant que, par exemple, Rigveda c'est long à l'ancienne. Il y a X qui est pas disponible, mais
moi,
là,
j'aimerais bien quand même.
Ah, mais grave. Ouais, mais bon, là, voilà, il y a eu Tokyo Babylon. Début d'année, on a Clamp School de Detectives qui est de retour. Il y a plein de choses. Mais en revanche, et je disais, c'est dommage pour Tsubasa Reservoir Chronicle, parce qu'en fait, dans cette nouvelle réédition qui est mondiale en fait, elle n'est pas parue au Japon encore.
Vraiment qu'on attende.
Donc on doit attendre que ça soit au Japon, parce que l'idée c'est de faire une collection, une harmonisation mondiale.
Ça, c'est cool, ça, en plus.
Bah, ouais. C'est... Alors, c'est ambitieux.
Ouais, ouais, carrément. Mais...
Non, faut que ça marche, mais c'est ambitieux. Ouais.
On va tous devenir des clampins. Des clampins. Pardon.
Mais il faut cleaner les droits dans le monde entier, dans chaque pays. Dans chaque...
Non, mais quel boulot colossal. Enfin,
sachant franchement... qu'elles sont super exigeantes.
Oui, et surtout, enfin, c'est un studio, donc il faut que toutes elles soient d'accord. Oui. Et c'est important. Je ne sais pas comment elles fonctionnent. Enfin, il y a les quatre membres principales. On
après,
va dire.
Je pense que tu dois avoir une espèce de studio, une agence qui les représente. Ou un truc oui. un peu comme ça. Quoi,
oui, mais
qu'essayer de clearer le bordel.
Des échos que moi
ah
j'ai
là,
eu.
Ça doit pas être facile, c'est sûr.
Elles ont leur mot à dire. Okay, okay. Et si le Pantone ne leur plaît pas, alors que c'est la même couleur. Bon, je suis daltonien, donc j'ai rien à dire à ce sujet. Mais si le Pantone leur plaît pas, parce ouais, que c'est pas la bonne technologie de couleur, machin.
On en avait déjà parlé, ça, du fait qu'en plus les encres sont pas les mêmes au Japon, en Europe et tout. Donc,
et bah, c'est non.
Ou partout dans le monde d'ailleurs. C'est, ouais. Ouais.
Du coup, ça c'est non. Ce qui explique quand vous voyez souvent des reports de clamp, c'est... alors ça peut être la faute de l'éditeur, hein, mais pas toujours. la suite de cette émission, maintenant on en parlait, c'était la 10e meilleure vente des lancements réédition et licence, c'est Doro et Doro.
Ah.
Doro et Doro, le chaos est dans vos librairies. C'est presque un reboot hein, cette chaos édition de Doro et Doro, cette chaos édition. On se bataillait nous pour essayer de faire connaître le travail de Hayashi Dakyo, on essayait d'en parler dès que possible. La première édition elle était sortie en France en 2003.
Ouais, je m'en souviens.
2003 et elle avait quand même pas mal de soucis cette édition. Et la résultat, les fans sont vraiment au rendez-vous. Alors, sûrement bien aidé par l'animé qui a permis aussi de populariser ou en tout cas de remettre au goût du jour le manga et le travail qu'elle avait. Die Dark qui est en publication.
Il y a une nouveauté.
Il y a une actualité
aussi,
exactement. Ouais. Mais voilà, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, c'est une édition où rien ne change vraiment. Sauf que l'ancienne, elle avait un côté un peu punk.
Ouais, elle était cradoc. Enfin, ouais. Il faut dire les choses. Il y a l'encre qui débordait de partout, ça bavait. Les trames étaient pas du tout calibrées. Oui, là,
ça,
tu vois, c'est pas clamp, quoi.
C'est l'œuvre de base, quoi. Je sais pas, je comprends pas.
Et je trouvais que cette édition crado dégueu, elle est très très imparfaite. Hein. Elle était super cohérente avec l'œuvre.
Complètement, complètement. Je suis assez d'accord avec ça.
Et là, c'est marrant de voir cette édition qui s'appelle la Chaos Édition, qui est super propre, qui est trop belle, qui est clean.
Dis, avec dis donc. Des noirs parfaits.
Ouais.
Un petit effet sur la couve vernis, peau de caïman, là, très stylé.
Non, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé là?
Je pense qu'il y a un côté. Tu sais, anoblir.
Tu l'as dit.
Ouais, non, mais tu sais, anoblir le truc pour être en conformité avec la qualité artistique et le côté un peu culte que cette autrice a, malgré son... Bon, on dit que ça marche, ça reste une autrice assez confidentielle, on peut le dire honnêtement.
Ouais, mais malgré tout, quand tu regardes les ventes de ce tome 1 de la Chaos Edition,
non, mais c'est
mieux que Kaneko.
En fait, oui, bien sûr, mais voilà, mais en fait, c'est bah oui, mais c'est pas très dur de faire mieux que Kaneko, mais c'est malheureusement, mais en termes de vente, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est que c'est une autrice culte, mais confidentielle malgré tout, et je trouve que je pense que retravailler son œuvre. Et puis en même temps, Die Dark, c'est un peu ce qu'ils avaient fait aussi, c'est qu'ils en ont fait des bouquins jolis, chers et tout. Et je pense que c'est des. Il y a certaines catégories d'auteurs, c'est ça qu'il faut faire, quoi, malgré tout. Si tu veux les
sortir de leur tabernacle.
Ouais, c'est ça, les sortir de leur niche.
Je vous refais le pitch, on est avec Caïman et son ami Nikaido. Caïman, c'est un humain qui est amnésique et qui a une tête de lézard et traque des mages qui viennent à Hall pour, s'il traque ces mages, c'est pour rompre le maléfice qui l'a privé de son vrai visage et de sa mémoire. Mais ça, c'est vraiment que le début, puisqu'après, c'est complètement le bordel, d'où la Chaos Édition. On termine cette émission encore avec trois segments, on va dire ça comme ça. Et le premier d'entre eux, c'est Lover's Kiss. Ça y est, on a pas la bibliographie complète, mais une bibliographie qui se complète peu à peu pour Akimi Yoshida. Même si tous ses travaux ne sont pas disponibles en France, on s'en approche peu à peu. Akimi Yoshida, c'est une autrice née dans les années 50, qui a eu une carrière assez prolifique. On la connaît surtout, nous, grâce au manga Banana Fish. Et cette fois, on la retrouve dans ce titre, Lover's Kiss.
Oui, alors pourquoi Lover's Kiss plutôt que La Cerisée ou Kisho Tenyo qui sont sortis également cette année? Écoutez, parce que pour moi, Lovers Kiss a vraiment toute la fraîcheur d'Akimi Yoshida. On a un livre sur l'adolescence qui est très complet, qui est finalement une espèce d'assemblage, puisque c'est un recueil autour des 6 mêmes personnages et des mêmes intrigues, mais il a vraiment une construction qui ressemble à ces espèces de puzzles en 3D, puisque donc, c'est vraiment une narration qui a été réalisée sur presque 2 ans dans le Besatsu Comics, donc à partir des années 1995. Et en fait, c'est vraiment une narration mais ciselée, délicate. Il y a toujours les questionnements autour des sentiments, de l'amour, de l'identité sexuelle, par exemple, mais aussi l'importance de l'amitié. Et je trouve que vraiment, elle a réussi à combiner tout ça de façon hyper cohérente. Et c'est ça, en fait. Yoshida, elle a ce souci de la cohérence qui va l'amener, presque 17 ans plus tard, à utiliser les mêmes personnages dans Kamakura Diaries. Mais ils ont pris 17 ans, eux aussi. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'elle ne les laisse pas tomber. Elle les prend avec elle et il l'accompagne dans son parcours de mangaka. Et c'est tellement fin et tellement agréable à lire. Franchement, gros coup de cœur.
Même si c'est très différent, tu vois, moi, je vais avoir beaucoup plus d'affection pour Kamakura Diary que pour Banana Fish, par exemple.
Oui, moi, Banana Fish, c'est, on va dire, c'est un classique, mais j'avoue que Lovers Kiss m'a vraiment séché, tellement il était dense, complet et parfaitement esthétique.
Lovers Kiss, c'est un volume signé Akimi Yoshida, c'est aux éditions Panini. Manga, on ne peut pas faire une émission classique et réédition sans dire... Attention, il y a un Tezuka qui est sorti. Tezuka, on arrive au bout, hein.
En tout cas, de ce que je connais, parce que bon, il a fait beaucoup de planches. Mais...
On est presque au complet des principales, je fais des guillemets à principales, œuvres de Tezuka en France, ça y est. Il peut encore en manquer, mais pour moi, avec Le Roi Léo et Princesse Saphir, on arrive au bout de ce que moi j'attendais.
Oui.
En tout cas.
Au pire, les trucs qui pas connus, ils seront chez Cornelius ou les autres.
Non, il y en a d'autres, mais je ne les attendais pas autant, tu vois. En plus, Le Roi Léo, c'est sorti en France en 96, 97. Ça remonte aussi aux éditions Glénat. Ça avait été réédité par Kazemanga. Devenu Crunchyroll, redevenu Kazemanga.
Tu essayes de nous perdre.
Cette blague va être géniale toute l'année 2026. C'était en 2010. Et voilà, Le Roi Léo d'Osamu Tezuka est devenu assez difficile à trouver pendant très longtemps. Et c'est un de ses mangas de jeunesse les plus réputés. Parce que, en fait, c'est un peu brouillon au début, Le Roi Léo, si vous vous souvenez un peu. Ça va dans tous les sens. Mais qu'est-ce que j'adore ce bouquin! Ça va être édité de 1950 à 1954.
Aïe.
1950 à 54, alors que j'ai encore, tu sais, dans la rétine des impressions du Roi Léo, comme si c'était quelque chose de moderne, quoi.
Moi, j'entends la bande-son du dessin animé.
Oui, il y a le dessin animé. Mais je trouve ça marrant de finir, entre guillemets, la réédition de Tezuka par celle-là, parce que c'est presque une de ses plus connues, en tout cas par le public occidental, tu vois, genre bon. Évidemment, on a tous en tête l'immense plagiat qu'est le Roi Lion, du Roi Léo, même si c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un grand sujet, voilà, ce truc. Mais ça prouve aussi l'importance de cette œuvre, quoi, quelque part. En plus, c'est assez ironique que Disney plagie Tezuka, lui-même clairement, ayant été tellement inspiré par Disney, par Walt Disney. Mais voilà, non, moi, je suis très content. Je les ai achetés à Japan Expo. Comme je fais à chaque fois, Japan Expo, j'achète toujours une intégrale luxe de Tezuka et je l'ai toujours pas déblisté. Voilà, c'est mon classique. J'achète toujours le truc de Tezuka qui est sorti cette année-là et je le déblisté un an après, quoi. Mais j'ai une anecdote assez mignonne. C'est du coup, j'avais l'ancienne édition chez Glénat qui était en 3 volumes, si je m'abuse, 3 petits volumes. Orange, sans jaquette et compagnie. Et du coup, j'avais fait une brocante où je revendais un peu mes mangas, voilà, dont je souhaitais me débarrasser. Comme j'avais racheté la nouvelle édition du Roi Léo, je me suis dit, bon, je vais revendre mon ancienne. Et j'ai un petit gamin qui passe et qui achète des mangas, parce qu'il est fan de mangas comme tous les enfants. Et il prend le Roi Léo, quoi. Et je dis, c'est cool, qu'est-ce qui. Et tu sais, du coup, je lui raconte l'histoire. Je dis, tu sais que c'est le manga qui est. Je fais vraiment
le mec relou de la brocante. brocante, quoi.
Voilà, le papy brocante.
Père Castor, je te raconte les histoires, quoi. Tu sais que c'est le manga qui a inspiré à Disney, machin.
Monsieur, laissez mon enfant
vraiment,
tranquille.
Il s'en foutait complètement. Il me dit, ah ouais, moi j'ai juste acheté ce que je m'appelle Léo, je trouve ça marrant. Je dis, bon, ok. Vas-y, c'est bon, il est pour toi.
Et tu lui as fait un prix du coup.
Ouais, voilà, bien évidemment.
T'as fait une BA.
Évidemment.
Ah, magnifique.
Normal. À noter aussi qu'il y a Princesse Saphir hein, qui a été publiée, rééditée en fin d'année. Et c'était la seconde version japonaise hein, qui a été publiée pour Princesse Saphir. Celle qu'on connaissait déjà hein, dans la précédente édition et qui contiendra là dans le tome 2, qui n'est pas sorti encore, Les Enfants de Saphir à la suite de Princesse Saphir, qui est un autre manga absolument culte pour moi.
En fait, il n'y en a que deux. Du coup, pour Princesse Saphir, oui. Ils seront en deux volumes. On aura tout l'intégrale de Princesse Saphir. La ça, totale. C'est génial.
Après, plus rien.
Après, non, après tu pourras les relire.
C'est les fonds de stock, c'est bon.
Après, on passera à Ishinomori. Dernier manga de cette émission, on ne pouvait pas passer à côté, c'est Genndy Hiroshima, le manga historique culte hein, qui connaît désormais une nouvelle vie en France. Et ce n'est pas un éditeur manga qui est derrière ce retour, mais le Tripod, une maison d'édition indépendante, avec une préface d'Art Spiegelman, une traduction revue, etc. Bref, c'est plus du tout le même manga.
Bah oui, il a même changé de titre. Puisque...
La preuve. Rien
Puisque
à voir du coup.
Il s'agit de Gen aux pieds nus, vraiment la traduction littérale du titre japonais. Et moi je trouve que, en fait c'était difficile de ne pas en parler parce que c'est quand même le devoir de mémoire personnifié quoi. C'est un objet de fascination. Alors moi déjà je trouve que cette histoire est incroyable puisque donc l'éditrice du Tripod, Charlotte Bréard, raconte qu'elle a qu'en fait découvert pendant l'exposition sur la BD au musée Beaubourg, des planches originales de Nakazawa et qu'elle est tombée de sa chaise, si j'ai envie de dire. Elle a complètement compris qu'il fallait remettre ce manga dans les mains des jeunes lecteurs. Et voilà, elle s'est lancée dans cette aventure d'avoir 10 tomes pour raconter la guerre, la bombe, le chacun pour soi, les discriminations, la militarisation à l'extrême. Mais aussi la débrouille, l'envie de vivre, la joie vraiment aussi que peut manifester. En fait, c'est une œuvre aussi monumentale, il n'y a pas d'autre mot. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah ouais, mais quand même, le destin, nanana ». Enfin, c'est vrai, c'est un manga à l'ancienne. Mais moi, j'ai une théorie, c'est que vraiment, tu vois à quel point Nakazawa a utilisé tout ce que la guerre lui avait apporté et lui avait pris. Et il lui a pris... quelque chose qui est horrible, c'est donc sa famille, sa joie d'enfant, mais elle lui a donné en échange toutes ces vieilles références pourries de propagande avec des dessins hyper enfantins, stylisés, qu'il a retourné pour un message qui va à l'opposé de tout ce qui était raconté dans toutes ces merdes. Excusez-moi pour le mot.
Ouais, parce qu'en fait, l'ancien titre, il avait de ça, de Claire Genndy Hiroshima, ça parle clairement de la bombe qui est tombée à Hiroshima.
Oui, et puis même avant ça, il y avait un autre titre qui était encore plus « Mourir pour le Japon » ou quelque chose, très grandiloquent.
Mais je trouve ça trop cool. En tout cas, l'histoire, le storytelling est assez cool parce que moi, en vrai, c'est marrant parce que l'expo à Beaubourg, elle est assez récente. Donc en fait, au final, c'est vraiment un espèce de choc et coup de cœur d'une éditrice pour un truc vraiment basé sur l'œuvre originale. Et, moi, et en fait, ça me frappe parce que moi, j'avais eu exactement le même choc esthétique parce que j'ai jamais lu Genndy Hiroshima, Gen aux pieds nus. Et j'ai eu exactement le même choc que Charlotte Brea. Genre vraiment, je suis allé à l'expo, j'ai vu la planche de Genndy Hiroshima, j'ai fait « Waouh, c'est ouf quoi !» Genre la puissance que l'art graphique peut avoir pour représenter un traumatisme comme ça et tout. Et donc, je trouve ça génial de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit vas-y, je l'ai publié, l'édito, c'est trop important quoi, tu vois.
Pour un manga en plus qui est on va dire pas autobiographique mais qui est très fortement inspiré quoi.
Oui, en fait c'est intéressant aussi même cette posture je sais pas si c'est une posture, si c'est le terme vraiment exact, mais le fait d'avoir créé un avatar finalement, quelque chose, une sorte d'alter ego qui représente donc lui-même alors que lui il avait 6 ans quand il y a eu le bombardement à Hiroshima. Mais donc, dans la bande dessinée, Gen, il a 8 ans à peine. Et c'est vrai qu'il y a plein de... Enfin, son parcours est vraiment jalonné de ce que Nakazawa a connu dans sa vie. Et c'est là aussi où c'est très fort. En fait, bon, pour la petite histoire, il y a en ce moment... Enfin, c'est les derniers jours de l'exposition Takahata à la MCJP. Si vous y êtes... pas aller ou si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas. Et il y a tout un passage sur le tombeau des Lucioles. Et moi, j'étais avec des amis qui ne connaissaient pas trop en fait cette œuvre, ou on avait entendu parler. Et quand je leur ai mis en parallèle à la Gen d'Hiroshima, enfin pardon, Gen au pied nu et le tombeau des Lucioles, ah là là, mais tu prends conscience en fait de ce que, encore une fois, comme dit Robin, ce que l'art peut t'apporter, et aussi de ce que, en fait, on a tendance à oublier trop facilement, que la guerre, c'est de la merde. Voilà.
Gen au pied nu, c'est 10 volumes et c'est réédité en ce moment aux éditions Le Tripode, et c'était le dernier manga de notre sélection de cette année 2025. C'est la fin de nos émissions bilan.
Et oui.
Et voilà, dernière conclusion sur cette année. Et je l'ai dit il y a quelques instants, mais voilà, Tezuka, c'est fait. Maintenant, place à Monsieur Ishinomori. Alors, je dis Ishinomori parce qu'il y en a à faire, ouais, clairement, mais il y en a d'autres. Hein. Mitsuteru Yokoyama, par exemple, et je ne vais pas commencer parce qu'il y a une liste qui peut être très très longue.
Ashita Nojo.
C'est juste que voilà.
Oui, Ashita Nojo, ça serait vraiment cool.
Patrimoine, il n'y a qu'à se servir.
Petit message.
Non, mais c'est vrai, il y en a plein d'autres. Il y a juste à se servir.
Oui.
Servez-vous, allez-y. Maintenant, éditeur, faites les bons choix, les bons formats au bon moment. C'est pas une science exacte l'édition, ça, vous le savez autant que nous. Mais voilà, il va falloir trouver les bons schémas, les bons prix, les bons tout, quoi. C'est compliqué, mais servez-vous.
Oui, et puis ça peut être difficile parfois de choisir entre certains formats, double, grand format, petit format. Mais moi, je suis un peu comme Robin, j'aime bien le fait que les bouquins restent maniables, qu'ils puissent tenir dans vos sacs et vous accompagner si vous en avez envie, quoi. Donc,
oui, mais je suis d'accord sur un Cyborg 009, mais pas forcément sur un Princesse Saphir.
Saphir, c'est vrai qu'il est beau quand même.
Non, mais c'est vrai que c'est con, mais c'est un peu comme le cinéma, tu sais, t'as les vieux Hitchcock, tu veux les avoir en Blu-ray, remaster, machin, avec l'image incroyable et tout. Et certaines œuvres, plus, tu vois, où l'image est moins importante, tu peux accepter que ce soit une forme plus cheap. Mais ouais, faut faire les bons choix. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de se dire « Ah, c'est vieux, donc c'est patrimonial, donc on fait des trucs qui coûtent un bras. » Tu vois, genre, je pense que c'est bien aussi de ne pas oublier que le manga est à la base pensé pour un objet populaire.
J'ai une blague de mauvais goût. On va faire des éditions Yakuza. Tends ton doigt, vas-y, ça coûte un doigt.
Qui coûte un orteil.
Non, mais même, il y a même des titres de Fujiko Fujio qui n'ont pas été forcément édités, qui, elles, méritent un traitement qui serait particulier parce que ça aurait du mal à marcher en petit format. Je pense qu'il y a plein de choses à faire.
Les Oumez, ce que Glena a fait, c'est super. Tu vois, le côté, c'était de l'édition Bunko, c'est beaucoup trop petit, c'est illisible. Tu l'agrandis juste un peu, format normal, entre guillemets, et t'as une édition où tu te saignes pas pour l'avoir et t'as une œuvre culte.
Donc voilà. Ouais. Servez-vous et vous qui écoutez cette émission, lisez. Hein, lisez. Vous voyez du classique, vous voyez du réédition, vous voyez plein de choses encore.
Il y aurait beaucoup
à dire. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, donc, place au manga de 2026. Ça y est, le mois de janvier est passé. Il y a même des sorties qu'on a ratées, mais on va vous faire un petit panel des stars du manga à venir pour cette année 2026. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite et on vous souhaite une très bonne lecture. N'oubliez pas un petit commentaire ou un petit partage de l'émission. Ça, c'est toujours très utile. Merci de nous avoir écoutés. Ciao et à la semaine prochaine.
Merci. Salut.